Bienvenue dans le podcast de la Maison des Maternelles. Vous allez entendre l'histoire de Julie qui pendant 7 ans a été tyrannisée par son fils. Et puis ensuite, le docteur Nathalie Franc, pédopsychiatre, nous expliquera ce que l'on peut mettre en place pour améliorer la situation. Bonjour Julie, merci de votre confiance, merci d'être sur le plateau de la Maison des Maternelles ce matin. Vous êtes maman de deux enfants, Misaël qui a 10 ans et Yaël qui a 4 ans. Et vous avez vécu, on peut le dire, un véritable enfer avec Misaël. C'est votre fils aîné donc qui avait totalement pris le pouvoir à la maison. Parfois même, vous le craigniez, c'est-à-dire que vous craigniez ces réactions très très violentes, vous les anticipiez même ces réactions. Et avant toute chose, on va bien préciser que ce sont des enfants qui évoluent dans un cadre très structuré, avec des limites, etc. Donc, comme ce sont des sujets un petit peu délicats, quand on parle d'enfants tyrans, c'est parce que, pour le coup, on peut vraiment dire qu'ils tyrannisaient la famille. Déjà, on revient un petit peu en arrière, Julie. Comment se sont passées grossesse et accouchement pour vous ?
Déjà, dans mon ventre, il était très agité. La sage-femme qui me suivait me faisait souvent des monitoring parce que j'avais énormément de contractions. Puis ça se calmait tout seul et après coup, en fait, il n'y avait aucun problème médical. Après coup, j'ai vraiment compris qu'il était déjà très agité dans mon ventre. Et ce qui nous a marqué à la naissance, quand on me l'a posé sur moi, il s'est appuyé sur ses mains, il s'est soulevé, il a levé sa tête puis il est retombé. Enfin,
incroyable.
Ça a marqué le ton de la suite de l'aventure avec Misaël, quoi.
Alors pendant 2 ans, il faut savoir que Misaël ne dormait pas plus de 2 heures d'affilée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 ans. C'est-à-dire que vous n'aviez jamais de répit de plus de 2 heures, jamais seul, toujours sur vous, en position verticale, en écharpe. Et quand il ne dormait pas, comment est-ce qu'il était alors, petit ?
Alors c'était un bébé qui voulait toujours, je disais tout le temps, il voulait toujours avoir un train d'avance. Il voulait faire des choses qu'il n'était pas capable de faire à son âge. Il voulait toujours être debout alors qu'il ne pouvait pas. Donc dans son parc, par exemple, il s'énervait beaucoup. Et puis l'aspect confiné du parc, il ne le supportait pas. Donc on a rapidement enlevé le parc. Il a appris à se lever tout seul en se tenant au meuble. Il ne supportait pas la frustration. Il veillait très tard le soir, minuit, 1 heure du matin. Il fallait lui lire des tonnes d'histoires, pas changer les mots de l'histoire parce qu'il les connaissait et qu'il s'énervait si on changeait. Il ne fallait pas sauter des pages pour aller plus vite. Il y avait énormément de réveils nocturnes. C'était très compliqué.
Voilà, donc en fait, il fallait faire exactement déjà comme il voulait. C'est-à-dire que l'histoire était telle qu'elle était, par exemple. Il ne fallait pas changer un mot. Il était très en avance. Vous l'avez dit, déjà, il voulait aller un petit peu plus vite que la musique, mais quand même, il a acquis le langage très, très tôt, à 18 mois. Ça n'a pas facilité vos rapports, ça, le fait de pouvoir échanger ?
Alors, il est rentré en maternelle, il savait écrire en majuscule, il connaissait très bien son alphabet, il a appris à lire dans la foulée.
Il a appris à lire tout seul.
Oui,
ouais. En petite section, il savait lire.
Oui, ouais, en petite
Incroyable.
Section. Et en fait, très rapidement, donc, il maîtrisait très bien le langage. Il nous reprenait souvent si notre syntaxe n'était pas exacte, si notre vocabulaire n'était pas précis. Il parlait beaucoup, il nous coupait tout le temps la parole, il s'immisçait dans nos conversations d'adultes. Finalement, avec le temps, on n'avait même plus envie de prendre la parole à la maison parce qu'il saisissait chaque occasion pour nous reprendre. Et puis, on ne pouvait pas échanger avec mon mari tranquillement. Donc, on a fini par s'appeler beaucoup sur la route pour s'échanger les choses principales de la vie quotidienne. Et on évitait de parler, on était fatigués, quoi.
Déjà, vous adaptiez en fait votre quotidien au desiderata de Misaël. Ouais. Pour qu'on comprenne bien, à quoi ressemblait votre quotidien, Julie ? Vos journées, c'était quoi avec Misaël ?
Alors, tout était tourné autour de ses exigences, de ses frustrations. Chaque situation de la vie quotidienne était sujet à crise. Les vêtements, se laver les dents, prendre une douche.
C'est lui qui devait choisir tout, en fait, c'est ça ?
Ouais. Les couleurs des vêtements, si la couleur n'y était pas, c'était la crise. Il fallait vite laver le vêtement, le sécher, etc. Enfin, voilà, c'était très compliqué.
Vous avez consulté à ce moment-là ? Vous êtes allé voir quelqu'un pour vous faire aider ?
Ces 2 ans, on voit un psychologue qui nous prodigue des conseils d'éducation basique. Pour le sommeil, il nous dit voilà, il faut le laisser pleurer dans son lit. Donc pendant 10 jours, on n'a pas dormi en se disant il faut tenir le coup. Et en fait, il hurlait toute la nuit, puis il tombait de sommeil. Il dormait 20 minutes, 30 minutes. Il se relevait, il continuait à hurler. Donc ça, toute la nuit, au bout de 10 nuits, on a arrêté le massacre. Pour les punitions, il nous dit 3 ans, il faut mettre un enfant 3 minutes sur une chaise avec un timer, etc. Autant dire qu'il ne s'est jamais assis sur la chaise. Le timer, dès qu'il l'entendait, il le prenait, il l'a balancé, il l'a cassé. C'était complètement contre-productif.
Et c'est très culpabilisant, non, en plus, pour les parents. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi. Quand on a quelqu'un qui tout à coup pointe le cadre et vous propose des punitions, alors que finalement, vous vous rendez bien compte que c'est pas ça le problème. C'est un peu compliqué à vivre pour vous.
On sent que c'est pas ce qu'il faut faire, mais on s'en tient à des conseils de professionnels, quoi.
Et à l'extérieur, il était comment, Misaël, à l'école et tout ?
À l'extérieur, c'est un enfant modèle, un petit blond très attachant. Il montre rien de ses colères. En fait, il prend tout sur lui toute la journée et quand il rentre à la maison, il explose, il lâche tout. C'est la cocotte minute. Ouais.
Est-ce que vous avez quand même réussi à vous aménager des moments pour vous parce qu'on parle là, on se met à votre place, on est tous parents. Déjà, quand il y a quelques nuits qui ne vont pas, on est épuisé. Est-ce que vous avez quand même réussi à avoir moments de calme, quoi ?
On lâche sur les choses qui ont moins d'importance dès lors que ça ne le met pas en danger. Voilà, en voiture, il ne supportait pas notre chanson, donc on change, on met sa chanson. Sur les longs trajets, il fallait que j'aille à l'arrière avec lui pour avoir la paix, quoi. Sinon, on n'arrivait jamais à destination. Lorsqu'il avait faim, on va le laisser manger un demi camembert plutôt qu'un petit bout. Des petites choses comme ça, en fait.
Quand on parle d'enfant tyran, qui, encore une fois, je le répète, est un adjectif que les parents n'aiment pas, parce qu'on, par définition, on se dit un enfant n'est pas tyran. Mais pour qu'on comprenne bien, justement, l'aspect tyrannique de votre vie à l'époque, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la Grèce avec la glace ? Parce que ça, c'est de la tyrannie.
Il nous avait bien gâché les vacances déjà et on se dit on veut passer juste une soirée, une petite balade tranquille, quoi, tous les trois. Et il décide qu'il veut manger une glace au chocolat, alors qu'il n'aime pas le chocolat déjà, mais bon, il décide qu'il veut une glace, donc on va chez le marchand. Et par contre, il demande à goûter la glace avant qu'on l'achète parce qu'il a une exigence sur le goût chocolat. Et il dit au glacier, non mais elle n'est pas bonne cette glace, j'en veux une autre. Donc on en fait deux et trois comme ça, jusqu'à ce qu'il décide que le troisième glacier, en fait, le goût chocolat était le bon goût chocolat, quoi. Et on lâche parce qu'on se dit sinon on ne pourra jamais rentrer, quoi, ce soir tranquillement.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait on est tellement épuisé qu'à un moment on se dit juste pour mon propre confort, je vais dire oui. Et à l'époque il avait 6 ans, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Est-ce que vous pouvez dire qu'il a été jusqu'à être violent avec vous ?
En fait, sa frustration, il la concrétise par la violence à notre égard, mais uniquement à notre égard, mon mari et moi.
Jamais avec ses copains, jamais dans la cour de récré ?
Non, jamais, jamais. En gros, c'est des coups de poing, des coups de pied, il nous crache dessus. Moi, il me dénigre beaucoup. À 3 ans, avec mon mari, on essaye de le maîtriser, parce qu'en plus, on a peur qu'il se fasse mal, quoi. Et quand il se fait mal, ça se retourne contre nous, parce qu'il dit que c'est de notre faute, s'il s'y fait mal. Puisqu'on ne lui a pas donné ce qu'il voulait, donc il était frustré. Et du coup, c'est quand même, vous voyez, il est extrêmement violent.
Et vous, alors, comment est-ce que vous réagissiez à ce moment-là ? Parce qu'on peut, on dit souvent que quand on est en manque de sommeil, on peut imaginer, on a des parents qui disent « j'ai envie de le mettre par la fenêtre », quoi. Est-ce que vous avez eu des moments aussi comme ça, d'envie de violence, qu'on pourrait très bien comprendre, hein ?
Malgré l'éducation bienveillante qu'on veut donner, une éducation positive, il nous pousse à réagir avec la violence aussi. On a envie, nous aussi, de réagir comme ça parce qu'on ne sait plus comment faire.
Après, il y a l'envie et il y a le passage à l'acte. Hein. Donc, avoir envie, je crois que c'est tout à fait normal. Il faut vraiment le dire pour déculpabiliser et rassurer les parents. Et c'est le cas aussi, même sur des crises qui sont bien moindres, bien, bien moindres. Hein. Donc vous avez décidé quand même d'agrandir la famille, malgré tout ça. Mère courage quand même, parce que dans ce contexte, il fallait le faire.
Au début, on a envie d'agrandir la famille, mais on ne se dit pas dans ces conditions. Donc on fait le deuil de la famille idéale, classique. Et Misaël quand même réclame une petite sœur pendant longtemps. Donc à ses 5 ans, on lui annonce qu'il va avoir une petite sœur. On est content, quoi, de lui annoncer. Et puis au bout de peu de temps après, il vient nous voir très solennellement et il nous dit « voilà, j'ai changé d'idée ». J'ai changé d'avis, je ne veux plus une petite sœur, je veux un petit frère. Bon, on se dit ça va passer, sauf qu'en fait, il maintient ses propos et il nous dit que de toute façon, à la naissance, il va la tuer, quoi. Il nous dit de toute façon, je la tuerai, mais puis très naturellement, je vais la tuer. Quand vous aurez le dos tourné dans son lit, je peux la tuer et je le ferai. Et moi, il devient encore plus violent avec moi, avec des coups dans le ventre, etc., quoi.
Bon, alors on va parler un peu de ce que vous avez mis en place, parce que heureusement, il y a quand même une issue joyeuse de toute cette histoire. Pendant cette deuxième grossesse, vous allez rencontrer votre sauveuse, une pédopsychiatre qui sera sur ce plateau tout à l'heure, qui s'appelle Nathalie Franc et qu'on connaît bien dans la maison des maternelles. Et elle prend spécifiquement en charge ce type d'enfant-là, au comportement tyrannique. Elle vous a donné des clés qui ont totalement changé votre quotidien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place alors avec Misaël ?
Alors, c'est la sage-femme qui me suivait, qui, voyant la situation, a alerté l'hôpital. Et le docteur Franck nous reçoit. Et dans la foulée, Misaël est diagnostiquée. Elle pose enfin les mots. Voilà, TDAH, HPI, trouble anxieux, trouble du sommeil.
Trouble de l'attention avec hyperactivité.
Au potentiel.
Vous avez eu la totale.
Total.
Et l'autre, c'est TOP, c'est trouble de l'opposition, c'est
ça ? Trouble oppositionnel avec provocation.
Ouais.
Voilà.
Bon, le trio gagnant. Ça va mieux aujourd'hui ?
Alors, du coup, elle nous a proposé de suivre un programme d'entraînement en guidance parentale Barclay. Là, on découvre ce que sont le TDAH et les troubles du comportement. Ensuite, elle propose un traitement médicamenteux à Misaël, mais comme il est hypersensible, il réagit très fort aux médicaments, ça va être un échec. Donc là, le moral redescend, on perd un peu espoir. Et puis arrive le confinement et elle nous propose de suivre le programme REACT sur Zoom. Donc au moment du confinement.
Donc à distance. Et ça, ça lui a fait du bien et à vos rapports aussi.
Alors au moment du confinement, on était à bout, on était un peu livrés à nous-mêmes. Donc
heureusement que vous aviez ça alors.
Ben alors oui, c'est arrivé à point à ce moment-là. Donc à bout quand même, je dis à mon mari que c'est un mercredi matin. Je dis à mon mari, il faut que tes parents viennent le chercher avant ce soir parce que ça va mal finir. Je me vois déjà dans les faits divers le lendemain, quoi.
Ouais, bah, non, on comprend, vous n'en pouvez plus.
Donc, il me demande de tenir 48 heures et deux jours après, on l'amène chez ses grands-parents. Il va y rester 3 mois où on va pouvoir...
Donc, cette pause vous a fait beaucoup de bien. Et après, les méthodes que vous avez mises en place, on peut dire qu'il va mieux aujourd'hui ?
Quand il revient, oui. En fait, ça a mis du temps. Mais au fur et à mesure des mois, on met en place les outils. Et là, on se rend compte que les crises sont espacées et beaucoup moins intenses. Et là, on se dit, waouh, la lumière au bout du tunnel, même si tout n'est pas encore parfait, on se dit qu'il y a de l'espoir.
Bonjour Nathalie Franc.
Bonjour.
Vous avez les oreilles qui ont sifflé un petit peu. Vous êtes pédopsychiatre au CHU de Montpellier. Vous avez donc créé, on l'a évoqué, une consultation sur mesure pour les enfants au comportement tyrannique. Et vous êtes aussi auteur du livre « Accompagner les parents d'enfants tyranniques » chez Dunod et « Crise de colère de l'enfant et de l'adolescent » chez Ellipse. C'est vraiment votre cœur de métier et votre spécialité. Qu'est-ce que ça veut dire « enfant à comportement tyrannique » ? On sait bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui n'aiment pas ce terme.
Alors, nous non plus, on n'aime pas trop ce terme, mais c'est vrai que l'objectif, c'était vraiment d'illustrer cette dimension de prise de pouvoir par l'enfant. En fait, ce sont des parents qui se retrouvent, bah, comme l'a très bien décrit Julie, qui se retrouvent petit à petit pris au piège. Ils ont du mal à poser les règles ou à prendre les décisions parce qu'ils vivent dans la peur de l'enfant ou dans la peur de réactions excessives, de crises, de violences, etc. Et en fait, c'est des familles où les parents commencent à marcher sur des œufs et tout ce qu'ils vont pouvoir décider au niveau éducatif, ils vont calculer finalement. Si on dit ça, peut-être ça va le contrarier. Si on fait ça à manger, ça va peut-être entraîner une crise. Et donc, c'est des parents qui vont se retrouver entravés et c'est cette inversion de la hiérarchie qu'on a voulu décrire. Alors après, c'est juste un comportement, c'est pas un diagnostic. C'est-à-dire que le diagnostic, comme ça a été dit, par exemple, ça peut être le TDAH, le trouble anxieux, les troubles du spectre de l'autisme.
Mais le TOP, c'est quand même ça, non ?
C'est un diagnostic, oui. Mais pour autant, il y a beaucoup d'enfants qui ont un TOP, mais où on n'est pas dans cette dynamique-là, où les parents continuent de poser leurs règles sans trop se poser de questions, où il n'y a pas cette peur. En fait, c'est cette différence, c'est la peur.
Oui, je vois très bien. C'est-à-dire qu'en fait, on anticipe les désirs de son enfant histoire de ne pas avoir de problème, quoi.
Oui, alors en même temps, ce n'est pas du tout du lâcher-prise. C'est vrai que c'est important de faire la part des choses sur le côté éducatif, parce que ça suscite toujours des réactions. Donc, quand on parle de ces sujets-là. Ce sont des parents qui ont vraiment des bases sur l'éducation, qui sont des bases solides, qui connaissent, qui veulent poser des règles et qui ne rencontrent pas ce problème-là avec d'autres enfants de la fratrie, par exemple. Mais dans ce cas-là, vraiment, il y a cette idée que ce sont des enfants qui sont particulièrement particuliers, donc qui vont faire des crises explosives. C'est-à-dire qu'on connaît tous les crises de colère des petits. Mais là, ça n'a rien à voir, en fait. Oui, c'est beaucoup ça. Plus
on a
intense.
Bien compris avec le témoignage.
Et donc, c'est ça qui fait qu'ils sont obligés de s'ajuster. Alors, des fois, c'est sûr, on pourrait dire, ah ben oui, il faut être ferme, il faut être ferme. Mais en fait, ce n'est pas possible parce que tout est sujet à explosion. Et donc, au bout d'un moment, humainement, il y a des choses, effectivement, sur lesquelles on va lâcher prise parce qu'on ne peut pas être au combat tout le temps. Et c'est pour ça qu'il faut redéfinir les choses parce que c'est compliqué.
Oui. On va parler des solutions. Hein. Anne vous dit, mon fils est tyrannique, j'aimerais connaître les solutions proposées pour sortir de ce schéma. Qui contacter pour aider mon enfant? Et nous, parents, devons-nous consulter aussi?
Oui, alors souvent les parents ont déjà fait des démarches en réalité de consultation, mais le problème c'est que même s'il faut passer par là, il faut qu'on arrive à repérer les troubles de ses enfants, poser des diagnostics, etc. La question c'est vraiment l'accompagnement parental. Donc l'idée c'est de se tourner vers l'association REACT, qui est une association montée par des parents qui sont confrontés à cette situation, qui sont à Toulouse, mais qui font énormément d'interventions en visio, à distance, et qui ont aussi un réseau de professionnels formés, sensibles, sur toute la France et qui peuvent réadresser.
Donc eux vont donner des contacts pour pouvoir avoir un spécialiste à côté de chez soi qui pourra nous aider.
Quelqu'un qui connaisse, parce que c'est vrai que finalement, ça fait quand même plusieurs années qu'on a monté ces programmes, mais ça reste encore malgré tout à la fois un sujet tabou et encore un peu mal connu des professionnels, puisque ce sont des enfants qui fonctionnent très bien à l'extérieur, comme on l'a dit, et donc ils vont un peu échapper à nos filtres habituels de pédopsychiatres, ils vont échapper par exemple au repérage scolaire, puisque évidemment à l'école, il n'y a aucun problème, même les enseignants vont être plutôt rassurants. Du coup, il faut changer un peu ses repères, il faut comprendre un peu la dynamique et c'est pour ça que ça peut être utile de consulter ces professionnels.
Fleur vous demande concrètement, quand ma fille commence à rentrer dans une crise et qu'elle devient violente, comment dois-je réagir? La tentation, c'est d'essayer de la calmer. Calme-toi.
Oui, alors il n'y a rien de pire que de dire calme-toi.
Dans le cas de Julie, est-ce qu'il faut essayer par tous les moyens de ne pas céder? Par exemple, le coup de la glace au chocolat.
Alors, une fois que c'est la crise, en fait, il y a deux choses. Il y a avant la crise. Une fois qu'on est en crise, finalement, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut surtout éviter d'être violent soi-même par la parole ou par les gestes. L'idée, c'est de se mettre à distance pour éviter les escalades de violence. En fait, c'est là qu'on est le plus à risque. Donc, à distance, ça peut être effectivement de voir quand l'enfant est petit, le mettre l'isoler. Quand l'enfant est plus grand, ça peut être de s'extraire soi-même.
Il n'est pas de public, l'enfant.
Effectivement, il y a cette histoire de laisser retomber la crise, laisser l'émotion se gérer sans intervenir. Donc ça, c'est pendant la crise, parce qu'il faut juste attendre que ça retombe. En réalité, c'est vraiment, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Après, c'est l'idée de comment on fait avant et comment on fait en général, parce que éviter les crises, ce n'est pas forcément une bonne option. On se dit, on a évité, par exemple, avec la glace au chocolat, ou parce qu'on a accepté de céder ou de faire une heure de rituel pour que l'enfant s'endorme. Je prends des exemples un peu du quotidien où on a. Mais en fait, sur le long terme.
La frustration existera dans sa vie, donc il faut.
Voilà, sur le long terme, ça ne va pas être un bon calcul. Mais ceci dit, parfois, il n'y a pas le choix, parce qu'il faut aussi tenir quand même, ce n'est pas du tout pour. Mais donc, l'idée, c'est de voir comment, de façon plus générale, on peut revenir à froid sur ce qui s'est passé pendant la crise, demander à l'enfant de le réparer, puis petit à petit, lui enseigner des stratégies, apprendre soi-même à rester le plus calme possible. Enfin, il y a tout un. C'est un ensemble de choses qui sont à mettre en place. Et puis parfois, se faire aider, parce que là, bon, c'est un enfant petit, mais vous avez des ados qui font des crises qui sont ingérables. Et donc là, c'est de faire éventuellement intervenir d'autres personnes.
Merci au docteur Nathalie Franc, merci à Julie. Et si vous avez aimé ce podcast, mettez-nous des étoiles.